Est-ce qu'il y a des commentaires à faire, des points à souligner? C'est un témoignage que nous avons déjà vu. Pas de commentaires. Ok. Il y a Mylène devant. Nous allons prendre Galates 6, verset 7, pendant que Mylène intervient.
Oui, en fait, je voulais intervenir sur le fait où, par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, etc. En fait, ça montre bien que toutes ces personnes-là qui prennent des substances, c'est qu'il y a un mal-être au fond, au-dedans d'eux, en fait. On pense toujours que c'est aussi l'ambiance, c'est aussi les amis, c'est aussi tout ce qui est à côté, mais ça montre bien le mal-être de la personne. Et deuxièmement, il dit qu'il avait aussi beaucoup de matériel, il avait beaucoup de choses, il paraissait heureux. Et souvent, le diable amène aussi les jeunes à se comparer aux autres et à envier les autres alors qu'ils ne savent pas qu'au-dedans d'eux, ils sont complètement détruits, en fait.
Amen. Est-ce qu'il y a des commentaires? Y a le frère fidèle derrière. T'entends pas? Y a rien.
Oui, je voulais juste rajouter qu'on voit bien l'orgueil, hein, jusqu'où ça peut amener les gens. Et souvent, on voit aussi dans nos lieux de travail, souvent, il y a des gens qui ont, entre guillemets, réussi leur vie. Et dans nos discussions, quand on partage, ils disent que voilà, j'ai construit ma maison, j'ai élevé mes enfants avec mes mains, j'ai acheté ceci, cela avec mes mains, donc, et c'est pas ton Dieu qui m'a aidé, quoi. Voilà. Et puis, on voit la conséquence, et tout cela, ces gens-là, après la retraite, hein, et ces gens-là, souvent, ils sont vite faits, enfin, souvent, ils tombent malades, sans qu'ils profitent de leur retraite, quoi. Voilà, donc si, pour moi, je dis que c'est l'orgueil de l'homme, ça mène toujours à ces, dans des passages comme ça, quoi.
Ok, maintenant on va réfléchir. Donc on a évoqué l'orgueil. Maintenant cet orgueil, comment ça peut se manifester autour de nous? Il y a une phrase qu'il a dit qui témoigne vraiment de l'orgueil de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment l'orgueil de l'homme se manifeste? On a dit, comme tu as évoqué, c'est le fait de dire que j'ai ci, j'ai ça, mais il y a un autre élément qui est subtil, mais qui manifeste vraiment le véritable orgueil. Mais ça concerne tout homme, même le chrétien aussi. Se retrouve dans ce cas de figure-là. Il y a un mot qu'il a dit clairement, oui.
Je pense que il avait besoin de reconnaissance et comme son père était très colérique, le frappait tout le temps, il voulait à chaque fois lui plaire, donc voilà, il a cherché de la reconnaissance. Je pense que c'est aussi l'orgueil de vouloir être reconnu. Bon, c'est une souffrance aussi quand on n'a pas de reconnaissance de la part de ses parents, mais chercher la reconnaissance dehors, dans la rue, dans les drogues, alcool et compagnie. Après, ben, il y a besoin de se sentir quelqu'un.
Oui, il y a besoin de se sentir quelqu'un. Donc, on se rapproche de ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Il y avait une main ici, non?
Me semble qu'il a dit qu'il voulait s'en sortir par lui-même. Et voilà.
Oui. Donc il a parlé de ça. Bon, ça, je vais en parler après. Il dit qu'il voulait faire croire que tout va bien. C'est quelque chose de subtil. L'homme, même quand il souffrait, il dit, au-dedans de lui, il était détruit. Mais il faisait croire que tout allait bien. Et pour maintenir ce train de vie, cette apparence-là, eh ben, il se droguait, il faisait des choses, voilà, pour toujours être, voilà, parce que quand on voit qu'une personne n'est pas bien, Nous le remarquons et c'est une faiblesse pour cette personne-là. On va dire, mais toi, tu as un problème, tu ne vas pas bien. Et pour masquer ça, eh ben, l'homme, comme nous sommes dans un monde d'illusions, d'apparence, on veut être le plus fort, le plus beau. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a des sportifs qui ont du talent par ailleurs, mais qui vont se droguer. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à paraître pour ceux qui ne sont pas. Et c'est ça le véritable orgueil de l'homme. Et ça a commencé dans le jardin d'Éden où le diable a trompé l'homme en disant « Non, tu peux devenir comme Dieu. » Et c'est ça. Beaucoup, malheureusement, on n'est pas bien, mais on donne l'apparence d'être bien. Mais qu'est-ce qui va arriver ? À un moment donné, on va craquer. C'est ce qui explique quand on entend infanticide, homicide, meurtre en série, on se demande, mais cette personne, mais c'était le voisin, attentat, on se dit, mais la personne, c'était quelqu'un qui était ouvert, qui était gentil, qui était attentionné, qui nous parlait, mais en réalité, ce n'est qu'une apparence. Et voilà pourquoi Dieu dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, il va plus loin que ça. Lui, il regarde le cœur, il regarde ce qu'il y a au fond. On peut paraître comme quelqu'un qui est bien, comme il explique que... Voilà, il s'est marié, il a eu une famille, finalement il a divorcé, mais il avait le travail qui le soutenait. En fait, toutes ces choses-là sont des béquilles que l'homme utilise pour être plus ou moins dans la norme de la société, plus ou moins normal. Voilà, et ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de subtil, de vouloir paraître pour ce qu'on n'est pas. On montre qu'on est bien, on montre qu'on est fort. Or, avec Dieu, il faut être sincère lorsqu'on est faible. Jésus, à Gethsémané, c'était le Fils de Dieu. Mais il a pleuré, il a dit, Père, voilà la mission que tu me donnes est difficile. S'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il dit, non, mais non pas ma volonté, que ta volonté à toi se fasse. Et qu'est-ce qu'il est écrit ? Un ange de Dieu est venu faire quoi ? Le fortifier. Voilà, Jésus-Christ a eu besoin d'être soutenu. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, mais il a eu besoin d'être soutenu. David, dans les moments de faiblesse, il a demandé l'aide de Dieu. Il a dit, Seigneur, je reconnais que je suis faible, que je suis petit. Et c'est ça aussi que le Seigneur veut. Et le piège du diable, c'est de vouloir toujours nous faire paraître pour ce qu'on n'est pas en réalité. Tout va bien, on paraît devant les hommes, on est là, voilà, les gens nous admirent parfois, mais en réalité, ils ne savent pas ce que la personne vit. Il y a des gens qui paraissent au grand jour, bien, avec la joie, mais en réalité, parfois, ils ne dorment pas la nuit. Parfois, ils ont fait des contrats sataniques. Et quand les gens voient ça, ils vont se dire, bon, je veux faire aussi comme un tel. Mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière exactement. On ne sait pas quel est le travail qui est fourni. On ne sait pas quels sont les contrats qui sont derrière. Mais nous, on voit simplement ce qui nous frappe. Et il y a aussi le point que Jonathan a souligné. Il dit, je voulais me battre par moi-même. Alors, c'est un autre piège du diable de faire croire à l'homme qu'il peut se battre et y arriver tout seul. La Bible dit, l'apôtre Paul le dit, que nous sommes dans ce monde, mais il y a des réalités qui sont spirituelles. Alors, l'homme voulant se battre lui-même, finalement, il va se heurter d'abord au péché. Qui peut se battre et vaincre le péché ? Qui ? Personne. Personne. On peut faire tout ce qu'on veut, finalement, viendra un moment où la nature va nous rappeler que nous sommes petits. La maladie va venir. Des situations vont venir pour te rappeler que tu es petit. Dieu lui-même va venir. Ça nous rappelle l'exhortation qu'on a eue où on parlait de l'apôtre Paul qui disait « Dieu a mis une charde dans ma chair afin que je puisse me rappeler que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Que ce ne sont pas mes connaissances, tout ce que je fais qui produit cela, mais c'est la grâce de Dieu qui produit cela. » Et c'est ça. L'homme veut se battre par soi-même, mais il oublie qu'il y a des paramètres qui le dépassent. Il y a des esprits qui sont là. Il y a la nature qui est là. Voilà. Il peut se battre, mais il viendra un moment où les limites seront là. Nous lisons, s'il n'y a pas d'intervention, nous lisons Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Et cet homme dit que dans sa jeunesse, il a été battu par son père. son père a proféré des menaces. Il a même dit que tu es un vaurien, que tu ne serviras à rien. Il le tapait et il dit qu'il a grandi avec cette rancœur, cette haine envers son père. Mais ses paroles aussi l'ont détruit au fond de lui. Et la Bible nous dit que tout ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Alors, pourquoi on prend ce passage? C'est pour nous expliquer que ce monde, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas qu'un monde physique, il est un monde où il y a des enjeux spirituels. Et ce passage est aussi une réalité spirituelle qui nous rappelle quoi? Qui nous rappelle que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sème, d'une façon ou d'une autre, on va le moissonner. Ce père a semé quoi? Il a semé la haine. Il a semé la méchanceté, il a semé la maltraitance. Et qu'est-ce que ça a fait? Non seulement il a fait souffrir son fils pendant ce temps-là, mais toutes les paroles qu'il a dites, finalement, ont eu écho dans la vie de cet homme quand il a grandi. Et c'est pour nous dire, moi je suis éducateur, et aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont placés, ce sont des jeunes qui sont détruits au fond d'eux. L'estime de soi, comme on disait tout à l'heure, ils paraissent forts, ils sont caïds, ils mesurent 1m80, il n'a que 14 ans. Et il est fort, mais en réalité, lorsque on lui parle de l'école, c'est là qu'on voit, que le jeune est complètement... En fait, il n'arrive pas à l'école, et pour masquer ces déficits-là qu'ils ont, ils vont être délinquants, ils vont perturber les cours, parce qu'en réalité, ils sont détruits au fond d'eux. Ils ont vécu dans un contexte familial où il n'y a pas d'amour, où il y a la haine, où il y a la méchanceté. Et eux-mêmes, je connais un, lorsqu'on lui parle même de ses parents, ils disent, même à la tombe, je n'irai même pas. Donc le jeune souhaite même la mort de ses parents. Mais comment un homme en arrive là? Un homme créé par Dieu, ce n'est pas possible. Mais c'est possible lorsque on sème des mauvaises choses. Alors l'exhortation au travers de ce passage, c'est de nous dire, réfléchissons à ce que nous semons, parce que nous le moissonnerons. Il y a un parent qui me disait, alcoolique, beaucoup de problèmes. Il me dit, il pleure. Il me dit, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon enfant me hait. Il ne m'aime pas. On a retracé l'histoire de la famille. Et la personne, le couple, s'est rendu compte que finalement, ils étaient toujours, et c'est ce que lui dit, que c'était l'enfant qui était le souffre-douleur de la famille. Tous les malheurs, c'était à cause de l'enfant. Tous les problèmes, c'était à cause de l'enfant. L'enfant, c'était lui, le problème, le monstre de la maison. Alors, il a grandi avec tout ça, avec cette colère-là. Et finalement, ça s'est manifesté par des mauvais comportements où il tapait même ses parents. Et c'est une loi qui est spirituelle, qui s'applique à tous les hommes. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonne. Parfois, on se demande, on dit, mais je ne comprends pas pourquoi mon enfant peut me parler comme ça. Pourquoi mon enfant peut se comporter comme ça? Parfois, si nous sommes sincères, disons, Seigneur, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas parlé tel que je devais parler. Je ne me suis pas comporté tel que je devais me comporter. Lorsqu'on dit aux enfants, priez avant de manger, ce sont des choses, des valeurs que les enfants reçoivent. C'est une semence. Et un jour, l'enfant se souviendra qu'en réalité, si je mange, c'est parce que c'est Dieu qui me donne. Mais de la même manière, lorsqu'on sème aussi la méchanceté, la haine, les insultes, l'enfant va grandir avec ça, croyant que c'est normal. Comme je disais, beaucoup de nos jeunes, ils ne supportent même pas les éducatrices femmes ou les femmes en général, parce que pour eux, ils ont l'image d'une femme qui se fait toujours frapper, leur mère. Et ils grandissent avec cette image-là, parce que ce sont des choses qui ont été semées en eux. Et un jour, ces choses-là qui ont été semées vont se manifester. Donc l'exhortation, c'est pour nous dire attention à la façon dont nous gérons ce que le Seigneur nous a donné, que ce soit les enfants, que ce soit dans tout cela, quelle est notre attitude? Qu'est-ce que nous sémons? Si nous sémons la vie, nous allons récolter la vie. Si nous sémons la légèreté, parfois on se surprend de dire « mais pourquoi ?» En réalité, c'est nous qui n'avons pas fait ce qu'il fallait. Et c'est ce qui s'est passé. Le père a été tellement mauvais, méchant, il a détruit cet enfant. Et finalement, toutes les paroles, tout ce qu'il a entendu, ont agi dans sa vie. Et comme je disais, il y a des jeunes qui arrivent à avoir un apprentissage, avec un salaire, avec une bonne situation, mais c'est comme si le passé rattrape toujours. Voilà qu'au travail, tout se passe bien, jusqu'au jour où il va taper le patron. Et quand on suit l'histoire, Bon, ça, ce sont les psychiatres, les psychologues. Ils suivent l'histoire, ils disent, oui, il y a une fatalité d'échec. Parce qu'il reproduit toujours, quand il sent qu'il commence à être aimé, eh bien, il reproduit maintenant son système d'échec. Comme il ne peut pas supporter être aimé parce qu'il n'a jamais été aimé, eh bien, finalement, même si tout va bien, il va tout faire pour que les choses aillent mal. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui ont été semées. Et quand on sème, on moissonne. C'est une règle spirituelle. Nous voyons la France telle qu'elle est aujourd'hui, où les jeunes ne respectent pas l'autorité, où les jeunes dans les banlieues se permettent même de jeter des cocktails Molotov sur les voitures de police. Mais c'est dû à quoi ? C'est dû à un état de liberté extrême, où on dit, bon, il ne faut pas toucher l'enfant, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Et voilà les dérives dans lesquelles nous arrivons aujourd'hui. Voilà. Donc il y a une contradiction. Un côté, on veut éduquer. De l'autre côté, on sème aussi le laxisme dans lequel nous vivons. Et c'est ça les conséquences. Donc c'est une règle spirituelle qui est importante. Et nous aussi, moi, ça a été une leçon pour moi le premier, c'est nous dire ce que nous sémons, nous allons récolter. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées aujourd'hui, mais avec leurs enfants ou avec leur entourage, mais s'ils sont honnêtes ou s'ils se souviennent, parfois, eux-mêmes, ils ont fait ces choses-là à leurs parents. Et c'est un cycle qui revient. Et ce cycle-là, il s'arrête en Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Exode 20 que celui qui croit en lui, la malédiction qui était là n'a plus effet, puisqu'on est maintenant à Jésus. S'il y a des questions ou des interventions, on peut se manifester. Donc, on continue. J'ai noté aussi un point, c'est les conséquences du péché. La Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Et je pense qu'on avait exhorté une fois en disant que nous, en tant qu'humains, on hiérarchise les péchés en fonction de leur importance. C'est-à-dire que je peux mentir aujourd'hui, et bon, je vais me rattraper, et puis bon, je me dis que bon, les conséquences, c'est juste un mensonge, comme certains disent, ah, comme une sœur à qui on parlait, une sœur qu'on a repris, et l'autre sœur qui a repris la sœur me dit, mais je la reprends plusieurs fois, elle me dit, oh, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Et on se dit, bon, l'acte est petit, eh ben, je demanderai pardon, et puis c'est fini. Or, dans le domaine spirituel, ce n'est pas le cas. Un petit péché peut avoir des conséquences dévastatrices. On a vu dans la Bible, avec beaucoup d'exemples, l'exemple d'Acan. Un simple vol, le dira-t-on, c'est ni vu ni connu, qui saura ? Mais qui saura ? On prend, on cache. Or, Dieu avait dévoué toutes ces choses par interdit. On a vu qu'il y a eu la défaite. On a vu David, un simple péché, et on a vu les conséquences derrière. Sa famille a été détruite et Dieu lui-même avait dit ça par la bouche de Nathan. Il a dit maintenant, l'épée ne sortira pas de ta maison. Le péché d'une simple personne, un petit péché, ne va pas forcément engendrer des petites conséquences. Un petit péché peut engendrer des grandes conséquences. Mais nous, dans notre tête, on se dit, bon, c'est juste, comme il explique, hein, il dit, je me drogue, et lui-même, il dit que le plaisir est tout petit, parfois 2 minutes, 3 minutes. Et il dit, il avait tout perdu, et quand il travaillait, c'était pour s'approvisionner encore en drogue, en cocaïne, en héroïne, voilà. Et pourtant, quand on voit la personne, on voit les jeunes, on voit l'alcool, on dit oui, mais c'est juste un verre, hein, juste pour la route. Mais c'est ça, le péché, il est petit, mais on ne le contrôle pas. Non seulement on ne le contrôle pas, mais en plus, les conséquences peuvent être graves. Il y a des gens qui ont pris le volant, ils disent non, je contrôle, je maîtrise, j'ai l'habitude. Tu prends le volant comme ça, tu te tues, et parfois tu tues même des personnes qui n'ont rien demandé. C'est pour dire que dans le péché, il n'y a pas de hiérarchie de valeur. On se dit, le péché est petit, et donc la conséquence sera petite. Non, c'est faux. Le péché peut être tout petit, mais la conséquence, ça peut être la destruction de toute une famille. Un homme qui se dit, après tout, je ne m'entends pas avec ma femme, eh ben, je veux voir ailleurs, c'est juste une aventure d'un soir. Mais voilà que l'aventure d'un soir peut détruire toute une famille. soit avec des maladies, soit avec des divorces, avec les enfants qui se retrouvent sans père. Voilà qu'un seul acte égoïste, on se dit c'est pour son plaisir. Mais voilà que son propre plaisir te fait tomber toi-même dans l'esclavage. Et c'est l'état dans lequel il s'est trouvé. Est-ce qu'il y a toujours pas de commentaires? Ok, moi je continue. Donc, il dit aussi que j'avais besoin d'aide. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque il a sollicité l'aide? Il a appelé sa mère. Et sa mère a raccroché au nez. Et là, il s'est retrouvé seul. Il dit, j'avais l'habitude d'appeler ma mère. C'était pour lui demander de l'argent. Et ce jour-là, bizarrement, il appelle sa mère, non pas pour demander l'argent, mais pour demander la nourriture. Et sa mère le raccroche au nez. Et il dit ensuite, il est rentré chez lui, il était assis par terre, il voit qu'il y avait une Bible dans un carton, il prend la Bible, c'était le psaume 3, 4, 5, et là, il est touché. Oui, il y a Jonathan qui va intervenir ici devant. C'est pour nous dire que, je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, et lui-même il a dit, en réalité il avait besoin d'aide, mais il s'est tourné vers sa mère pour avoir l'aide. Or, ce n'était pas sa mère la solution, c'était Dieu qui était la solution. Dieu a permis que sa mère, qui l'aime, je pense que sa mère l'aimait vraiment, à ce moment-là, raccroche au nez. Mais quelle dureté. Lorsque je voyais ça, je me suis dit, mais c'est dur pour une mère. C'est pour nous dire, comme on dit souvent, que parfois, Dieu permet des situations dans la vie des gens. Si on veut aider, il faut qu'on prie, que Dieu nous conduise. Parce que, imaginons que la mère aurait aidé à ce moment-là. Est-ce qu'il aurait été disposé à se tourner vers Dieu? Peut-être, on ne sait pas, ce sont des suppositions. Mais toujours est-il que là, il s'est retrouvé seul avec Dieu. On nous a déjà prêché sur ça, seul avec Dieu. Son père, ça n'allait pas. Sa mère, le seul lien qu'il avait, voilà que sa mère le raccroche au nez. Il s'est retrouvé maintenant seul avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu ouvre ses yeux, il regarde. Il y avait une Bible. Et là, il prend la Bible, Dieu lui parle. C'est cela. Il voulait de l'aide, mais la véritable aide, c'est Dieu. C'est pour nous dire que même si nous sommes bien intentionnés pour aider les gens qui sont autour de nous, sachons que la véritable aide, c'est le Seigneur. Et le Seigneur permettra que parfois, même si on a l'habitude d'aider une personne, qu'un jour nous soyons nous-mêmes dans le manque. Et lorsqu'on n'a rien, comment on peut aider la personne? Ou alors lorsqu'on a, prions, disons au Seigneur, Seigneur, conduis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Mais souvent nous sommes à ce moment-là charnels, on se dit, bon c'est mon frère, bon c'est normal, c'est normal. Oui, c'est bien, ce n'est pas mauvais, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider, mais je dis, faisons les choses selon la conduite de Dieu. La décision que la mère a prise de raccrocher au nez, est-ce qu'elle était tranquille? On ne sait pas, on ne sait pas. Mais c'était quand même une souffrance. Mais voilà que cette souffrance l'a mis maintenant devant ses responsabilités. Sa mère déjà, il avait été invité une fois à l'église, donc il a entendu la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé seul avec Dieu. Et là, il a crié à Dieu et le Seigneur s'est révélé à lui. Oui, Jonathan.
Oui, moi, il y a une chose que je remarque, c'est qu'il s'est avancé des années avant, enfin, je ne sais pas combien de temps avant, à l'appel d'un pasteur qu'il a touché. Mais on voit qu'après, il s'est enfoncé encore parce qu'il a dit qu'après ça, il a voulu encore se battre par lui-même. Mais quand il a vraiment été sauvé, c'est quand il a lâché, quoi. Quand il a dit « j'avais besoin d'aide ». Je pense que là, son orgueil était vraiment cassé et c'est pourquoi Dieu lui a mis une Bible entre guillemets sous les yeux, parce que là, il était disposé.
Amen.
Et ça a pris, je vois que ça a pris vraiment du temps. Donc, il est touché quand même, mais moi, quand je réfléchis, je me dis, c'est vrai que pour cet homme, et peut-être pour tous les hommes, c'est pareil, le vrai verrou du salut, c'est l'orgueil, quoi.
C'est ça.
Parce qu'on voit des fois des gens qui sont dans la rue, dans des galères pas possibles, ils résistent encore à Dieu, même quand ils ont déjà plus rien, quoi. Donc, c'est vrai que on dit souvent, Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il était fatigué déjà depuis longtemps, mais bon, il ne voulait pas le reconnaître. Peut-être c'était là le vrai problème finalement, parce qu'on voit qu'après ça, la drogue, Dieu a réglé ça vite fait. Hein. Je pense que le vrai problème pour lui, c'était d'abandonner le fait de vouloir se battre lui-même. Quoi.
Amen, amen, amen. Intervention ? Toujours pas. Ok, j'ai encore un autre point. Donc, il dit à la fin, oui, il y a une intervention derrière.
Oui, j'allais rajouter des petites choses et de la puissance de la parole de Dieu, comme il dit lui-même, ma parole est esprit et vie. Et il s'est révélé à la personne dans ce passage de Proverbe 5, 4, Proverbe 3, 5, en disant que c'est le mot qu'il a dit. Et aux yeux de Dieu et des hommes, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et cette parole-là, juste cette parole-là, ça a travaillé à cette personne-là. Et ça lui a transformé à tel point qu'il est devenu aujourd'hui l'homme qu'il est aujourd'hui. Amen, amen. Donc ça m'a beaucoup touché. Et puis à la fin aussi, il a dit quelque chose qu'il a suivi même des cours bibliques. Donc je crois que cette personne-là a eu tellement soif de Dieu et ça lui poussait à fond qu'il n'était pas rassasié de la parole. Je pense qu'il a eu encore besoin d'aller encore chercher encore dans des cours bibliques. Quoi.
Amen, 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 amen. Intervention. Ok, j'ai relevé un point. Lorsqu'il dit que finalement, il a crié à Dieu, il a fait la paix avec Dieu, et ensuite, il a eu une bonne relation avec son père physique, et il a même ramené son père à Dieu. Et c'est pour nous dire, c'est une petite phrase, mais qui a un détail très important. Souvent, notre relation avec ceux qui sont autour de nous reflète aussi la relation que nous avons avec Dieu. Je m'explique. Lorsque on est en véritable communion avec Dieu, eh ben, ça va se remarquer aussi dans notre entourage. Lorsqu'on est dans une relation conflictuelle, nous sommes humains. Je ne dis pas qu'on ne fait pas d'erreur. De l'autre côté, je ne dis pas qu'on est toujours parfait. Mais je dis qu'il y a une chose. Lorsqu'on est en véritable communion avec Dieu, le Saint-Esprit va nous amener à avoir aussi une bonne relation avec ceux qui sont autour de nous. Soyons sincères, soyons honnêtes. Généralement, quand on se boude, mari, femme, frère, on s'évite. Si on est vraiment sincère, derrière, il y a un problème de communion avec Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsqu'on a une véritable communion avec Dieu, eh ben, cela va nous amener, comme la Bible dit, la tristesse selon Dieu, elle produit quoi ? Elle produit la repentance. On voit que non, là j'ai un problème. Seigneur, puisque je t'aime, eh ben, je vais arranger ce problème-là. Et son cas, il était en guerre avec son père, parce qu'en réalité, il était en guerre avec le véritable père. Lorsqu'il a décidé de faire la paix avec le véritable père, eh ben, naturellement, Dieu a ouvert les portes pour qu'il aille. Parce que là, à ce moment-là, il devait faire quoi maintenant ? Il devait maintenant s'humilier devant son père physique pour venir lui dire, écoute mon père, voilà ce qui s'est passé. Tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, tu m'as fait, voilà la vie que j'ai eue, mais je te demande pardon. Mais pour arriver à ça, il aurait fallu qu'il ait d'abord la vie du Seigneur. C'est ça. Notre relation avec nous, c'est un appel à la méditation. Nous dire, si on a du mal à aimer un frère, si on a du mal à aimer un bien-aimé, on a du mal à pardonner à quelqu'un, c'est qu'en réalité, il y a un problème dans notre relation avec Dieu. Après, on pourra dire, Dieu connaît mon cœur, Dieu, oui, oui, oui. Mais si on est véritablement en relation avec Dieu, on fera tout ce qu'il faut à notre niveau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que rechercher la paix, avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ça. On peut prier du matin au soir. On peut faire des œuvres comme on veut. Mais si on n'est pas en paix véritable avec Dieu, parce que quand on cherche la paix avec Dieu, Dieu nous dira, regarde, tu as un problème là. Regarde, tu as tel problème. Regarde, ton fils, tu n'as pas de, tu ne t'es pas excusé. Regarde ton mari, tu n'as pas fait ce qu'il faut. Et si on est honnête, on dira oui, Seigneur, c'est vrai. Et cet exemple-là, ça m'a parlé. Je me suis dit effectivement, lorsque on n'est pas en bonne communion avec Dieu, eh ben, d'une certaine manière, ça va se manifester. Parfois, lorsqu'on est parfois irritable, on est parfois toujours à se plaindre, on est parfois toujours, c'est toujours les autres, c'est toujours en réalité, si on regarde bien, c'est nous qui avons un problème avec Dieu. C'est nous qui avons un problème. Peut-être Dieu nous a dit, humilie-toi, je vais agir. Dieu nous a dit, ne parle pas, mais on fait toujours, on dit, mais c'est toujours les autres, mais Seigneur, mais c'est toujours... Non. En réalité, lorsqu'on fait la paix avec Dieu, lorsqu'on est en bonne communion avec Dieu, eh bien, naturellement, la lumière de Dieu va déteindre sur nous, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit, nous qui contemplons, 2 Corinthiens 3, 18, nous qui contemplons le Seigneur, eh bien, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Donc nous qui sommes dans la présence de Dieu, eh bien, forcément, imprégnés par sa présence, par son esprit, par sa parole, eh bien, forcément, notre vie dégage aussi cela. C'est ça. Et l'apôtre Paul dira, nous sommes le parfum de Christ pour le monde qui est autour de nous. Donc, tel que nous sommes, tel que nous vivons, eh bien, si nous ne faisons pas ce travail-là, c'est que, en réalité, au fond de nous, il y a un problème avec Dieu. Et soyons honnêtes pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai un problème, aide-moi, libère-moi. Je ne sais pas si j'ai été clair, s'il y a des questions, on peut se manifester. Mais tous les points étaient importants, donc nous allons continuer avec... notre deuxième vidéo.